CIUT 89.5 FM, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.FM or live from our studio. Popovie Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popovie Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Au Japon, on consomme peu de graisse et le nombre d'infarctus n'est plus faible qu'aux États-Unis. En France, on consomme beaucoup de graisse et le nombre d'infarctus est plus faible qu'aux États-Unis. En Inde, on boit peu de vin rouge et le nombre d'infarctus est plus faible qu'aux États-Unis. En Espagne, on boit beaucoup de vin rouge et le nombre d'infarctus est plus faible qu'aux États-Unis. Au Brésil, on fait beaucoup plus d'amour qu'en Algérie et le nombre d'infarctus des deux pays est plus faible qu'aux États-Unis. Conclusion, buvez, mangez, faites l'amour autant que vous voulez. Ce qui peut tuer, c'est parler anglais.
Vous écoutez Popori sur CUT 89.5 FM de 11h à 13h chaque dimanche. Popori, une émission réalisée en partenariat avec Radio France Internationale, le département d'études françaises, l'Université de Toronto et l'Alliance française de Toronto. Soyez les nôtres sur CUT 89.5 FM, Popori, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde.
Campus universitaire de l'Université de Toronto, Hat House. Nous avons le plaisir de vous présenter le magazine de la francophonie à CUT 89.5 FM, 25 ans déjà. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Tania, Marc-André, le capitaine de Vera, au microphone Eric Adair avec vous jusqu'à 13h sur www.cut.fm. Nous avons le plaisir de saluer Peggy Chevalier, qui était des nôtres la semaine dernière, Annie Lazari, qui était aussi notre invitée vedette. Dernière minute, la semaine dernière, pour célébrer la clôture du mois de l'histoire des Noirs. Morgane et son papa, qui sont quelque part en Ontario, je pense qu'ils nous quittent aujourd'hui. Et puis, Wiltrud qui nous a envoyé un très beau message en direct de l'Allemagne et aussi de nos amis qui sont avec nous sur Internet, entre autres le professeur Nicolas D'Ambrosio à Bari, professeur en littérature française en Italie. Vous écoutez Potpourri dans un instant, la programmation détaillée de votre magazine. En ce dimanche 4 mars, l'animatrice et journaliste Chantal Joly n'est plus. Témoignage sur les réseaux sociaux et de nos partenaires. Chantal Joly, animatrice en France, n'était venue au Québec que pour 2 semaines dans le cadre d'un échange en 1980, mais elle n'est jamais repartie, heureusement pour nous. Elle était connue pour les nombreuses émissions radiophoniques qu'elle a animées à Radio-Canada. Elle a ainsi été à la barre d'émissions comme Boucher Double, L'Oreille Musclée et Bachi Bouzouk. Chantal Joly nous a appris à nous ouvrir les oreilles et à écouter autrement. Chantal Joly a fustigé son employeur Radio-Canada sur le non-accommodement de son handicap quelques années après, avant sa mort. Réaction et perspective au long de cette émission. Puis, dans le cadre du mois de la francophonie 2012, nous avons le plaisir de vous associer, de nous associer au lancement de Paris Berbère, d'Edith Bouraoui, un roman poignant, émouvant, écrit dans une langue poétique et ciselée sur un sujet à la fois complexe et tabou concernant la guerre d'Algérie. Et du journal Express de Toronto, notre partenaire de la région, de belles soirées vont jalonner une semaine de la francophonie 2012, du 15 au 23 mars, qui change de visage cette année pour proposer moins d'événements, mais plus de synergie. Ainsi, une soirée art en lumière aura lieu le 16 mars à la galerie Thompson-Landry. Et un concert réprimandé sera présenté au Lula Lounge le 20 mars avec Florence K en vedette. Les détails un peu plus tard. Toujours à Toronto, Oasis, centre des femmes, a organisé jeudi 23 février la soirée de clôture de sa récente formation en entrepreneuriat 2011. À cette occasion, les finissantes ainsi que les membres d'Oasis ont pu bénéficier d'activités de réseautage liées au projet d'entrepreneuriat. Un rendez-vous spécialement conçu pour les femmes entrepreneurs francophones. Martinique, le collectif des orchestres des rues FEDER en sont ça, une vingtaine d'associations, nous dit-on, qui interviennent dans le développement culturel de la Martinique, particulièrement pendant la période de carnaval, avec une devise forte qui est « Parlons d'une même voix tout en gardant nos différences ». L'ambition du corps est de structurer une démarche mettant l'humain au centre de ses actions. L'effet d'incivilité et de violence aggravée, particulièrement chez les jeunes, rythme régulièrement la vie de notre société martiniquaise, nous dit-on. Île de la Réunion, malgré la crise, des centaines d'artistes réunionnais se sont déplacés cette semaine pour représenter leur pays au carnaval des Seychelles. Et le candidat Sarkozy promet des propositions pour l'île de la Réunion. Et oui, plus tard, on sait un peu le bilan de ce partenariat entre les Seychelles et la Réunion. En Haïti, les parlementaires surfent sur une vague de contestation anti-Martelly, président actuel. Plusieurs parlementaires rejoignent des groupes sociaux dans leur contestation de centaines de dérives, d'ailleurs reprochées au président de la République, Michel Martelly. Les présidents des deux chambres ont affiché leur désaccord par rapport au comportement de Michel Martelly dans une lettre publiée suite à la démission de Gary Conille. La lettre évoque une situation de grande inquiétude qui détourne l'attention de la population. Beras, lui, le jeune, appelle à une vigilance des citoyens et citoyennes pour éviter le pire lors d'une manifestation anti-Martelly organisée récemment par des groupes de base attachés à Lavalas. Parti de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, des sénateurs et députés ont témoigné leur support à la contestation. En France, présidentielle 2012, la campagne dérape. Accorder le droit de vote aux étrangers pourrait conduire à ce que les étrangers rendent obligatoire la nourriture halal dans les cantines, a affirmé vendredi soir le ministre de l'Intérieur Claude Guéant lors d'un meeting près de Nancy. Ça chauffe en France ces temps-ci. Puis, je vous rappelle que le mardi 6 mars, l'ONG France Terre d'Asie organise un colloque sur les demandes d'asile, justement liées au genre, c'est-à-dire les demandes d'asile formulées par des femmes, des homosexuels ou des transsexuels qui fuient les persécutions liées à leur orientation sexuelle ou à leur statut de femme. À l'île Maurice, dans une lettre au Premier ministre, le parti Lalit s'élève contre la participation d'un régiment des forces françaises en zone sud de l'océan Indien, le lundi 12 mars, au Champ de Mars, lors de la fête nationale de l'île Maurice. Annoncée en primeur dans le journal mauricien le samedi 25 février dernier, cette information a été confirmée hier par le ministre des Arts et de la Culture, Moukeshwar Chouni, lors d'une conférence de presse. Et puis au Sénégal, le président sénégalais sortant, Abdoulaye Wade, a obtenu 34,82% des voix au premier tour de l'élection présidentielle selon les résultats officiels publiés le 1er mars dernier. Il affrontera au second tour son ancien premier ministre, Macky Sall. Des tractations d'ailleurs vont bon train en coulisses. Cinq fortes explosions espacées ont été entendues ce matin, dimanche 4 mars, en début de matinée à Brazzaville, en provenance d'un camp militaire de blindés dans le secteur de Mpila. Au moins 4 personnes ont été tuées, plusieurs dizaines ont été blessées, mais d'après le site de RFI ce matin, nous apprenons que plus de 150 personnes ont été tuées. Le palmarès des victoires de la musique 2012, et oui, parmi les 13 récompensés ou distribués hier soir, grande réussite pour Hubert Félix Kéfan, qui remporte 2 victoires. Catherine Ringer rafle la salle de la meilleure artiste féminine. Aurel San, le rappeur, remporte 2 victoires. Nous faisons le point avec notre correspondant Serge Beyer dans la deuxième heure, et peut-être aussi quelques extraits de Hubert Félix Kéfan, qui est-il, et aussi Aurel San. Dans la deuxième heure, à ne pas rater. Et puis je vous rappelle que le bilinguisme est contesté à Kingston, en Ontario. Et oui, ça ne fait pas plaisir sans doute à la ministre des Affaires francophones de l'Ontario. Plus de 3000 personnes ont signé une pétition contre la francophonie, pas seulement à Kingston, mais en Ontario. Ils veulent renverser les lois qui existent actuellement et qui donnent des francophones accès à des services en français dans la fonction publique ou ailleurs en province. Donc, si vous avez des commentaires, des perspectives, est-ce que ça vaut toujours le coup d'être francophone et fier de l'être en Ontario français, vous nous téléphonez à 416-946-7000. Notre amie Tania est ici pour répondre à votre appel. Oui, elle parle français, très sympathique. Et vous pouvez nous envoyer aussi vos commentaires, vos réactions à pot.courrier@sympathico.ca. Justement, mois de mars 2012, dans le cadre du mois de la francophonie, nous vous invitons à découvrir les nouvelles tendances de la francophonie avec la participation de nos partenaires d'ici et d'ailleurs, des artistes, des invités. Appelez-nous ou envoyez-nous votre message, vos coups de cœur, pot.courrier@sympathico.ca. Du Québec. Bravo.
Je sais pas quel monde on vous laissera.
Écoutez pour Pourri CUT 89,5 FM, bienvenue à votre magazine de la francophonie. Oui, j'aimerais tant avoir vos réactions, c'est assez bizarre. Quelle coïncidence, nous sommes au mois de mars et c'est le mois de la francophonie un peu partout à travers la planète. Et voici qu'ici en Ontario, au Canada, dans une petite ville, je ne dirais pas village de campagne, même si on pourrait peut-être catégoriser cet endroit un peu comme un petit village éloigné de la grande ville des affaires de Toronto, donc Kingston. Il y a des francophones qui sont là, il y a un grand centre pénitentiaire aussi, et il y a beaucoup de bureaux du gouvernement fédéral et du gouvernement de l'Ontario. Et d'après les lois au Canada, les francophones ont le droit d'avoir accès à des services comme l'éducation, des soins de santé, des soins aux services sociaux, santé mentale. Oh, et voilà qu'un petit groupe, le maire, on me dit, le maire de la ville de Kingston, oui madame, monsieur, est-ce que vous pouvez me confirmer ce message? Est-ce que c'est le maire? Je vais demander à Tania de faire une recherche. Essayez de voir si le maire, et quel est son nom, le maire de la ville de Kingston, qui a lancé une pétition cette semaine, madame, monsieur, oui, dans les rues de Kingston, et a demandé à ses concitoyens de signer une pétition pour renverser les lois sur les services en français. C'est grave, hein, c'est très grave. Quand on sait ce qui s'est passé avec un hôpital à Montfort, pour ne pas le nommer, il a failli perdre ses fonds et aussi fermer boutique il y a plus de 10 ans de cela. Et voilà, encore une fois, l'avenir de la francophonie, nous les francophones. Et comment est-ce qu'on définit ces francophones? C'est vraiment très compliqué tout ça. Alors, vous nous appelez 86-986-7000 et Tania, vous allez me trouver le nom du maire tout à l'heure. Vous viendrez me donner le nom du maire tout à l'heure. Et justement, nous avons reçu un petit message de Philippe Landey, coordonnateur des communications pour la Fondation franco-ontarienne, qui est encore très vivant, n'est-ce pas, qui nous dit, Monsieur Claude Gingras, président de la Fondation franco-ontarienne, vous invite à prendre part à la plus grande tournée de cuvées de vin et fromage de l'histoire de la Fondation en vous joignant à nous lors de la 6e cuvée de la région de Toronto. On dirait que la francophonie se définit souvent avec vin et fromage et des baguettes, n'est-ce pas Tania? Mais il y a autre chose dans la vie, voyons donc. Sera présent l'invité d'honneur de Marc, M. Christian Paquette. Je vais me faire envoyer des tomates, sans doute. Heureusement qu'on est à la radio. Alors, qui est M. Christian Paquette? Il est président du Club canadien de Toronto et avocat chez Hannon Blakey. Eh oui, les membres du comité ne visent rien de moins qu'une participation record pour cette 6e édition. Nous invitons spécialement les gens d'affaires et les organismes de la région de Toronto à se joindre à nous. Cette soirée est un événement de rassemblement, de réseautage pour les francophones, francophiles qui désirent développer leurs liens avec les membres de la communauté du Grand Toronto. Soyez des nôtres pour célébrer la francophonie, donc le mercredi 4 avril, si cela vous tente, vous êtes libre, à 17h, le 4 avril, chez Hannon Blakey, situé au centre B Adelaide, 333 rue B, bureau 2900. 29e étage, c'est le métro King ou Queen Lynn Young. Alors, si cela vous intéresse, vous vous appelez 613-565-4720. Le message est passé. $60, s'il vous plaît, pour les billets. Ça vous intéresse, Marc-André? Marc-André, bonjour. Merci d'être là. Et Tania, je vous donne du fil à retordre. Avec moi, vous allez apprendre, j'espère, avec nos invités aussi, vous allez apprendre des nouveaux mots, les mots de la francophonie, du fil à retordre. Ça vous dit quelque chose? Nous avons justement un invité de marque aujourd'hui, c'est le professeur Eddy Bouraoui, qui n'a pas besoin de présentation, qui est là depuis très très longtemps. Et sachez donc, quand on a commencé cette émission, c'était un des premiers collaborateurs, les premiers de, comment on dit ça, les premiers de l'heure. Et on parlait de ça, l'identité francophone, la francophonie, comment est-ce qu'on se définit, est-ce que vous qui êtes tunisien, français, européen, maghrébin, africain, franco-ontarien, est-ce que vous êtes francophone du Canada? Est-ce que vous allez, vous êtes contre ou pour cette pétition qui est lancée par le maire de Kingston? J'aimerais savoir ses réactions. Mais aujourd'hui, il vient nous parler d'un sujet brûlant d'actualité que les Canadiens connaissent mal. Et c'est ça le problème au Canada. On ne connaît pas l'histoire du monde. Même pas notre propre histoire, d'ailleurs. Voyageur inlassable à travers le monde, Eddy Bouraoui s'est engagé sereinement dans tous les domaines de la francophonie. Nous allons parler, bien sûr, avec lui. Quel le plaisir, d'ailleurs, est pour nous de l'accueillir. C'est comme s'il était là il y a 25 ans de cela, quand on a démarré cette émission. Paris Berbère, Eddy Bouraoui, qu'est-ce que c'est? Alors, la guerre d'Algérie, ça vous dit quelque chose à la maison, en voiture, où vous êtes, sur Internet? Vous l'avez oublié peut-être? Or, il y a encore, on regarde dans ces débats de la présidentielle en France, c'est pas gagné. Hein. Quand on parle de halal, on parle des étrangers, on parle du rejet de l'autre et de son vote. Enfin, je pense que ça va être une émission très animée, il me semble, madame, monsieur. Si cela vous intéresse, vous nous appelez au 436-946-7000. Dans un instant, je vais rendre hommage à ma façon, madame, monsieur, à une très grande amie collègue de Radio-Canada, Chantal Joly. Mais pour tout de suite...
J'ai mamba, nous te comptons pas ça deux. Tu vas voyer, nous te comptons rencontrer. Pour nous parler, nous t'arrêter. Moi tu tout sans penser. C'est dans une même chérie, moi j'ai pour m'habiter. Pour faire l'amour de lui, juste un soleil levé. Limite soleil, la témoigne. Tout comme un plus soleil. Parce ça qu'il est, moi je l'ai repéré, quand ça m'a dégoûté. Thank you.
Oui, mesdames et messieurs, bienvenue à Popourri CIT 89,5 FM. Nous entendons des vagues, des oiseaux, des enfants qui chantent. Oui, c'est presque le printemps ici à Toronto, au Canada. Et j'aimerais vous rappeler que nous avons trouvé le nom du maire de la ville, petite ville de Kingston dans l'est de l'Ontario. Il s'appelle Mark Gerretsen. Si vous avez son adresse, son numéro de téléphone, son bureau, on va pas quand même l'achaler ou taquiner chez lui à la maison. Mais non, on va l'appeler à son bureau. Il est maire de Kingston et il est en train de soulever tout un tollé pour renverser la vapeur, c'est-à-dire il ne veut plus que les hôpitaux ou des services publics de la région de Kingston offrent des services en français. Et oui, madame, messieurs, l'animatrice et journaliste Chantal Joly est décédée dans la nuit du 28 février aux îles de la Madeleine au Québec de la maladie de Parkinson. Elle avait 64 ans. Plusieurs articles pleuvent sur les blogs, sur le web, dans les journaux au Québec. Et permettez-moi de vous présenter cette femme formidable qui m'a marqué, qui, si je fais de la radio d'ailleurs, c'est un peu grâce à elle. Quand je suis arrivé au Québec il y a plus de 30 ans, elle m'avait comme captivé l'attention. C'était la première femme, en plus immigrante, française, qui avait le culot de présenter la musique du monde, les musiques du monde à la radio. J'ai des petits problèmes encore une fois avec mon micro et mes écouteurs, s'il vous plaît. Alors, essayez de rectifier la chose, s'il vous plaît. Alors, elle est peut-être méconnue chez certaines, mais cette femme immigrante française a révolutionné la radio et le monde de la francophonie canadienne, à mon noble avis. Chantal Joly, tu vas me manquer énormément et je te remercie pour tes sages conseils. Chantal Joly était connue pour les nombreuses émissions radiophoniques qu'elle a animées à Radio-Canada. Elle a ainsi été à la barre d'émissions comme Boucher Double, L'Oreille Musclée et Bachi Bouzouk. J'ai eu le bonheur de lui rencontrer à plusieurs reprises et c'est lui qui, en quelque sorte, m'a mis en contact avec notre ami et collabo français Serge Veillet, que nous recevrons dans la deuxième heure de cette émission. Il est fondateur du magazine Longueur d'onde. Sa présence chaleureuse, son style décontracté l'avait fait connaître et apprécier. Et dans les années 1980, à la télé de Radio-Canada, elle a aussi partagé, vous vous souvenez, la vedette de l'émission à première vue avec René Aumirois. Que de moments de folie. L'animatrice avait dû mettre fin à ses activités médiatiques en 2009 en raison de symptômes de plus en plus importants de sa maladie. En mars 2011, Chantal Joly avait accordé une entrevue à l'émission « Tout le monde en parle ». L'entrevue portait essentiellement sur sa vie après le diagnostic de Parkinson reçu en 2007. Je l'ai écouté pour la première fois quelques heures après l'annonce de sa mort. Cette entrevue m'a bouleversé. Ce n'est pas le courage et la force de Madame Joly qui m'ont bouleversé, mais plutôt la grande injustice qu'elle a vécue, celle de cette vie arrachée par la société, celle dont on ne parle toujours pas aujourd'hui. Les différents articles écrits à propos du décès de Madame Chantal Joly racontent qu'elle a dû quitter la radio de Radio-Canada en 2009 en raison de la maladie. Son départ de la radio est décrit comme une fatalité dont la maladie est l'unique responsable. Ce n'est pourtant pas la version de Madame Joly. Elle l'a confié à plus d'un million de Québécois, à Tout le monde en parle, en disant « La direction de Radio-Canada m'a demandé de ne plus parler. Moi, je serai resté. » J'aurais mis les gens dans la confidence. Je leur aurais dit « Vive la différence. Vous allez voir la différence. » Dans un article de Nathalie Petrovski, écrit dans les jours ayant suivi son départ de Radio-Canada, Madame Joly expliquait « J'aurais aimé pouvoir en faire autant à Espace Musique. » C'est-à-dire prévenir mes auditeurs que par moments, les mots allaient glisser de ma voix et ma voix allait faiblir, mais que ce n'était pas plus grave que ça. Toutefois, son désir de rester en onde, même malade, n'a pas trouvé preneur auprès de la direction d'Espace Musique à Radio-Canada, qui a estimé qu'il valait mieux la retirer des ondes et lui confier un autre mandat. Alors que Chantal Joly commençait à avoir certaines incapacités liées à la parole, plusieurs personnes croyaient qu'elle était droguée ou saoule. Elle a dit avec conviction qu'elle aurait trouvé les mots pour expliquer sa nouvelle situation à ses auditeurs et les inviter à la célébrer. Radio-Canada, de son côté, a choisi de ne pas exposer la différence et ainsi briser les stéréotypes, les préjugés fondés sur le handicap. Aucun accommodement raisonnable possible. aucune variation possible sur le rythme et le ton de voix Radio-Canada. Le futur radiophonique de Mme Joly était scellé parce qu'elle était sortie du moule de ce qui est considéré comme acceptable. À l'émission de Télé Tout le monde en parle, Mme Joly a partagé sans gêne, mais non sans émotion, que le jour où elle a cessé de faire de la radio, elle a commencé à moins bien se porter. Eh oui, elle a également admis avoir pensé au suicide. On venait de lui arracher sa passion, une grande partie de sa vie, c'est-à-dire animatrice à la radio. En fin d'entrevue, Guy Lepage lui a demandé ce qu'il pouvait lui souhaiter. Elle a répondu de trouver ma place en tant que personne différente, de trouver ma place et de la garder, et d'être utile. Sa place, elle avait perdue. En fermant le micro de Mme Joly, Radio-Canada a perdu une occasion en or de faire tomber plusieurs stéréotypes et préjugés fondés sur le handicap. Quel message sa décision envoie-t-elle aux personnes handicapées, à qui l'on fait croire qu'elles peuvent tout faire dans la vie si elles y mettent l'énergie nécessaire? Si Radio-Canada a choisi de se priver de talent d'une grande communicatrice ayant une riche carrière et 30 ans d'expérience, imaginez comment les personnes handicapées qui n'ont jamais pu développer leur plein potentiel peuvent être traitées sur le marché du travail en général. La réalité, c'est qu'elles sont les moins bien représentées dans le monde du travail lorsqu'on les compare avec d'autres groupes marginalisés. Chantal Joly nous a dit qu'elle aurait voulu continuer à faire de la radio et par le fait même inviter ses auditeurs à célébrer la différence. Ce n'est pas le Parkinson qui l'a forcée à se retirer des ondes. Et nous autres, pourquoi avons-nous choisi de ne plus l'écouter? Réaction d'un auditeur, je m'appelle Laurence Parent, je suis une personne handicapée, je veux trouver ma place en tant que personne différente, trouver ma place, la garder et être utile. À bon entendeur, salut.
From the roof up, CIUT 89.5 FM, Toronto, presenting the history and evolution of sound for 25 years and counting, CIUT 89.5 FM, Toronto.
À tous les portes sans voir, Marine. Dans le pays de Marianne, il y a l'amour, il y a la guerre, mais aussi le mariage, Marine. Pourquoi tu perds, fais-tu les traditions, si tu compteras des millions, appuie la vision. Ma haine est immense dans ce soir de descente. Quand je pense à tous ces gens que tu rassembles, tu sais. Moi, tout comme toi, je veux qu'on m'écoute. Et tout comme toi, j'aimerais que les jeunes se servent les coudes, Marine. T'as un prénom si tendre, un vrai prénom d'ange, mais dis-moi si tu te prends. Jamais amis, parce que ma mère est française, mais je ne suis pas née ici. Marine, regarde-nous, on est beau, on vient des quatre coins du monde, mais pourtant on est trop. Ma haine est immense quand je pense à ton père. Il prône la guerre quand nous voulons la paix. Donc j'en mère, qui le Front National, moi on a prouvé nos fureurs, Marine. T'avais l'honneur d'être proche de l'ennemi, d'installer un climat paisible dans nos vies, mais Marine, t'es forcément intelligente, t'as pas touché à tous ces gens que t'incrènes dans leur chambre, Marine. T'es mon aîné, et pourtant je ne te respecte pas. Il m'a fallu faire ce choix, Marine. Si tu maîtrises la chaîne, prends la parole et nous rentre nos rêves, mais Marine, t'as fait la même connerie que lui. Pensez que le plan ne se mélange pas.
Vous écoutez Pot Pourri, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde. Sur la bande CUT 89,5 FM. Une émission réalisée en partenariat avec Radio France Internationale, le département d'études françaises, l'Université de Toronto et l'Alliance française de Toronto. Pot pourri, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde.
Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Afin de faciliter le nettoyage et l'agencement du TGV actuellement en place, nous vous demandons de ne pas monter dans la rame. Merci de votre compréhension.
Ladies and gentlemen, your attention please. Do not get on the TGV already on the platform while cleaning and reorganization are going on. Thanks for understanding.
Señoras y señores, su atención, por favor.
Para facilitar este
Oui, mesdames, messieurs, c'était un petit détour à Paris, justement, pour accueillir notre invité, premier invité du mois de la francophonie 2012. Nous avons le plaisir d'accueillir et de nous associer d'ailleurs au lancement de Paris Berbère de Libouraoui, un roman poignant et émouvant écrit dans une langue poétique, nous dit-on, et qui est notre voyageur inlassable et ami invité. Eh bien, comme vous le savez, ça fait très 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 longtemps qu'Eddie Bouraoui est à Toronto, de 1978 à 88. Il faut bien se rappeler, il a exercé les fonctions de doyen du Collège Universitaire Stang, l'Université York. Et en 1982, il est nommé professeur distingué à l'Université York, à Toronto toujours, où il a fondé des départements de langue, littérature et linguistique. Et en 1995 et jusqu'à 98, il a exercé les fonctions de directeur du département d'études françaises, important département. Il est aujourd'hui professeur émérite. Il a toujours un bureau à l'Université York et il y va tous les jours quand il est à Toronto. Oui, oui, oui. Il est aussi fondateur du Centre Canada-Maghreb, d'ailleurs, qui organise quelques colloques très intéressants, ce dialogue entre le Maghreb et le monde occidental. Et l'année prochaine, c'est à surveiller. Paris Berbère, aux éditions Vermillon, Ottawa. Nous avons le plaisir d'accueillir professeur Bouraoui. Bonjour.
Bonjour, Eric.
Et cela nous fait plaisir.
Merci beaucoup. Moi aussi.
Alors, très bien. Nous allons entrer dans le vif du sujet.
D'accord.
Alors, par exemple, on nous dit que Paris Berbère nous fait rentrer dans la vie d'un couple franco-algérien. Frontières historiques, frontières culturelles, l'intrigue. Tissé de relations, duels montrent que les plaies de la guerre d'Algérie et de la colonisation demeurent à vif. Les différences unissent autant qu'elles séparent les êtres et les communautés. Présentez-nous les principaux personnages de ce roman.
Eh bien, le personnage principal est vraiment Tersadit Aït Mohand, qui est une femme dite berbère, mais nous n'aimons pas beaucoup le mot berbère parce que on devrait dire amazi. Amazigh, c'est au fait les gens qui sont en Afrique du Nord, et qui c'est la première, ce qu'on appelle ici la première nation, au fait. Et cette femme va rencontrer, elle a un père qui a été harki, et le problème des harkis, comme vous le savez, on ne peut pas, hein, parce que les harkis ont pris position pour la France lors de l'indépendance de l'Algérie. Et cette femme va rencontrer le narrateur principal du roman. C'est un Français qui s'appelle Théophile Deviaux. Et Théophile Deviaux vient de la province, et vient exactement du sud-ouest, du petit village de Clairac, en Lot-et-Garonne. Et il s'avère que dans ce village est né son aïeul au 16e-17e siècle, début du 17e siècle, un certain grand poète français qui s'appelle Théophile Deviaux, et son père l'appelait Théo en fonction de cet ancêtre. Et celui-là, il va aller donc à Paris parce qu'il est né, au fait, disons, je n'aime pas beaucoup le mot, mais disons bâtard. Il a été né d'une manière qui n'est pas tout à fait très catholique. Et il est à la recherche de sa mère. Et dans tout le roman, ce personnage principal va chercher sa mère, tandis que elle, il va la rencontrer pendant la crise de mai 68. Donc il y a deux crises en France et en Algérie, la guerre d'Algérie avec l'indépendance en 62 et la guerre, si vous voulez, ou la révolte, la révolution, si vous voulez, de mai 68, et c'est là où il va la rencontrer. Et elle est omnibulée par le fait de venger son père. Et le problème, c'est que les Harkis, quand ils ont débarqué en France, on les a délaissés, on les a mis dans des camps, en fait, et ils étaient complètement mis à l'écart.
Et le débat se poursuit encore
aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, mais on veut savoir plus...
si on veut leur accéder à des droits
exact.
En France.
Exact.
Ça crée tout un débat, surtout dans la campagne présidentielle.
Tout à fait, tout à fait. Alors, vous savez, donc, elle est omnibulée par ça, elle ne vit que pour ça, et elle essaie de convaincre son mari, qui est devenu avocat, de chercher celui qui, il a été d'ailleurs tué en France, tué par un Français, c'est-à-dire les gens qu'il a aidés vont le tuer, symboliquement parlant, et elle va chercher à venger son père. Et elle réussit, au fait, dans une scène. Donc le roman est un peu un roman policier, mais en même temps un roman historique, pas dans le sens littéral du terme, mais dans le sens où ça brosse une période très très brûlante que ni les Français ni les Algériens ne veulent reconnaître.
J'aimerais beaucoup pendant ce mois de mars, avec surtout ce qui s'est passé, révolution arabe et puis toutes les conséquences. On sait que le tour n'est pas gagné encore, hein,
oui.
Quand on regarde la situation en Tunisie, en Algérie et en Égypte, on voit que ces révolutions, soi-disant pour apporter une certaine démocratie, est sabotée encore une fois par d'autres groupuscules. On pourra en parler de ça. Mais pour revenir à votre roman, est-ce qu'on pourrait parler que c'est une trilogie qui s'étale sur trois générations que vous avez voulu partager avec votre histoire?
Oui, tout à fait, parce que d'abord, ça prend les parents des héros principaux, Théo et Tassadit, c'est leurs parents, c'est la première génération, mais on peut remonter encore même plus loin aux aïeux Théophile de Viau, XVIIe siècle, reconnu par Malherbe, qui dit c'est le prince des poètes au début du siècle, mais aussi Aït Mohand, qui est un des plus grands poètes berbères de l'oralité, et qui est aussi l'ancêtre de Tassadit Aït Mohand. Alors, vous comprenez, il y a cette génération des ancêtres, il y a la génération des pères, des personnages principaux, les personnages principaux, et plus ils vont avoir des enfants, et qui vont, eux, faire tourner la page, si vous voulez, de ces problématiques que leurs parents ont vécues pour pouvoir se lancer dans l'avenir qui reste quand même incertain.
Ce qui est très intéressant, c'est que ça a suscité quand même l'intérêt chez des critiques, surtout dans les pays du Maghreb ou en Europe, mais moins encore ici. Bon, on sait que le livre vient de sortir pas très très longtemps. Selon un article paru dans la presse de Tunisie, l'auteur Rafik Daraghi, que vous connaissez très bien.
Très bien, ça, c'est un ami.
Il dit, parce que ceux qui se sentent toujours africains et en même temps méditerranéens, là il parle de vous, hein, de cœur et d'esprit. Lui qui vit et enseigne au Canada, voilà maintenant des lustres, notre compatriote Edi Bouraoui a toujours eu en tête la problématique du dialogue entre le nord et le sud de la Méditerranée.
Tout à fait.
Ça vous poursuit, hein, toujours dans votre quête de ce dialogue.
Absolument. Absolument, Eric, c'est une problématique qui m'est vraiment très, très... ça me fait chaud au cœur que j'ai pu avoir la santé pour pouvoir mener à bien, comme dans la trilogie que j'ai sortie sur la Méditerranée, avec Cap Nord, Les Aléas d'une Odyssée, et Méditerranée à voile toute, où on reprend l'Odyssée de Homer, si vous voulez, et d'Ulysse. C'est un nouvel Ulysse du 21e siècle qui va faire le tour de la Méditerranée du sud au nord, de l'est à l'ouest. Et c'est toujours pour vraiment marquer cette tolérance entre les différences et les différentes races et les religions. N'oublions pas qu'en Méditerranée se sont créées les trois religions du livre, hein, la judaïté, la chrétienté et l'islam. Et moi, c'est vraiment ma ma problématique principale, c'est qu'on puisse se comprendre, dialoguer les uns les autres et accepter la différence, non pas comme une différence intraitable, mais comme une différence, comme l'a dit Khatibi d'ailleurs, un grand auteur marocain, mais comme la différence traitable par le dialogue et la compréhension de l'autre en se mettant un petit peu dans ses souliers.
Alors, toujours le cas de cet article du journal La Presse tunisienne, il dit, vous traitez avec subtilité, vous transformez à votre façon lentement cet état d'esprit en quête de vérité, une prise de conscience, et là, chez le couple, dans le roman, et cela a dû susciter un peu de réaction de la part de certains Français, n'est-ce pas, quand ils ont appris que ce livre allait sortir.
Oui, vous savez, la réaction était vraiment négative, Eric, à tel point que moi, je croyais que c'était mon roman français, parce que j'ai écrit des romans sur l'Égypte, comme vous le savez, sur le Canada, ainsi par la Tour Seine, etc., etc. Et je pensais que je pouvais publier ce roman-là en France ou en Algérie. Et c'est pas par manque de contact que j'ai en France, je connais pas mal de monde, même dans le monde des éditions et des éditions et tout. Et ce livre a toujours été refusé. C'est-à-dire, on ne voulait pas entendre parler de ce sujet. Et en même temps, la même chose s'est passée avec l'Algérie. Et en Algérie, j'ai aussi des amis, ils m'ont dit, on veut que tu publies tout ce que tu veux, sauf ce livre-là. Parce que vous traitez des problèmes des harkis et nous, on ne va pas en prendre parmi. Et ça, on me l'a dit, donc. Ni en Algérie, ni en France. Et au Canada, vous savez, j'ai eu vraiment pas éparpillé. Vous savez, Eric, ça m'a pris 13 ans pour le faire publier. 13 ans. Le livre a été fini en 98. 13 ans de problématiques avec le monde de l'édition. Parce que, encore une fois, personne ne voulait traiter d'un sujet. Jusqu'au moment où j'ai eu un éditeur canadien à Montréal qui se dit mon frère, parce que c'est un Haïtien, et vous savez à quel point j'aime Haïti, je lui ai consacré un livre, et qui me l'a gardé pendant 2 ans, et qui n'a absolument pas rien fait. Alors, je remercie les éditions du Vermillon d'avoir accepté et publié un beau livre.
Paris Berbère, roman d'Eddy Bouraoui, à peine paru, déjà remarqué par la critique. On vous revient dans un instant.
Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Afin de faciliter le nettoyage et l'agencement du CGV actuellement en plein, nous vous demandons de ne pas monter dans la salle.
Repère, c'est nos repères, espérons être très clairs. On est des cyber-berbères perdus sur la terre. Pour peut-être ralentir, pour rectifier, ralentir. Pour arrêter le délire, vous l'alliez ça et la conscience à ça. C'est une radie via Roya.
سلف العشرين بين وبين ما عارفينش فين غادي نشكون سبعين غير سبعين سبعين كلمة هاي شافونا على الانترنت حنا فهمنا انترنت اجي تشافي معايا من دار القهوة في القهوة ولكن مع السبعة خاصة تكون جالسة مع الوالد والوالدة كي تفرط في التلفازة سريا مصرية عندكم هادي بوهاوي يطيحوا في شي صبيحة.
Ah oui, on dirait qu'il dit Eddy Bouraoui dans cette chanson. Alors, oui. une chanson d'un ami groupe un peu rock, punk au Maroc, oui. Et qui chante en français, mais aussi le berbère. Si on revenait un peu là-dessus, je trouve le titre très évocateur. En même temps, c'est un titre qui ne nous laisse pas indifférents quand on veut connaître l'autre. Alors, agencer Paris, la France, berbère, qui a une connotation quand même, il faut le dire, dans certains milieux, très difficile hein, pour les gens de comprendre. J'ai des amis marocains, tunisiens, quand on parle du moment qu'on nomme berbère, on sent qu'il y a il y a des réactions négatives.
Oui.
Alors, parlez-moi un peu, qu'est-ce qui vous a poussé à trouver ce titre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous l'a suggéré ou pourquoi ce titre très poignant?
Oui, voilà. Alors, le titre, c'est pas venu comme ça, je vous dois... D'abord, j'avais nommé ce texte « Au nom du Fils ». Bon, il y avait une connotation catholique, « Au nom du Fils, du Père », etc. Bon, Mais pourquoi pas, parce que le roman est autour de Tassadit, l'héroïne. Pourquoi pas au nom de la fille?
Ouais.
J'ai dit, bon, au nom de la fille, bon, ça n'a pas l'air très vrai dire non plus. Et après, je suis allé à Harki et poète, puisqu'il s'agit là d'un Harki et de sa problématique, mais aussi de deux poètes, le poète ancêtre Théophile de Viau et Aït Mohand, le poète de l'oralité africaine. Bien. Eh bien, après, ça n'a pas marché non plus. Eh bien, j'ai dit, Harki et poète, les oubliés du siècle. C'était un beau titre. Moi, il m'en semblait que c'était un mauvais titre. Et quand on est arrivé au Canada, et je l'ai donné à une amie guadeloupéenne, d'ailleurs, qui a essayé de le publier à Montréal. Et elle n'a pas réussi à le publier. Au bout d'un certain temps, elle m'a dit, il va falloir que tu changes de titre, parce que sinon, on va pas le faire publier, ce roman-là. Et elle m'a suggéré un titre choc, Paris berbère. Ah, j'ai dit, ça y est, je le prends.
C'est bien, s'accroche.
S'accroche.
Oui.
Et je le prends. Et après, j'ai découvert, Eric, qu'il ne s'appelait pas simplement Paris, la ville de Paris, et Berbère, mais qu'il y avait les paris des personnages.
Ah oui.
Celui qui parie pour trouver sa mère, et celui qui était le pari de venger son père.
Vous jouez avec les mots.
Exact. Et j'aurais voulu...
Jongler avec les mots.
Eric, c'est que j'aurais voulu que le mot berbère soit en majuscule. Parce que ça aurait donné les paris de la berbère. Mais l'éditeur n'a pas voulu.
Ah.
Elle a dit non, pas majuscule là. Il faut une minuscule. Elle a même consulté l'Académie québécoise. Oui, parce que c'est une, et comme je lui ai dit, c'est pas une faute de grammaire, c'est une faute de typographie.
Dans Paris berbère, ces échos du passé sont un vibrant rappel des indignés d'aujourd'hui. Quand vous avez écrit ce livre, est-ce que vous saviez que vous étiez vraiment à l'avance de votre temps et que vous aviez une prémonition peut-être que le mouvement des indignés allait secouer notre monde, à la planète, il y a quelques mois de cela? Y a-t-il un parallèle?
Oui, le parallèle est très évident. Eric, très évident.
Je pense que nous avons un invité surprise qui est avec nous. Bonjour, qui est là?
Ah, bonjour. Bonjour, Eric, comment allez-vous?
Nous sommes au salon, en train de discuter avec notre ami professeur Eddy Bouraoui, que vous connaissez très bien. Présentez-vous, monsieur.
Bon, je m'appelle Nicolas D'Ambrosio et je téléphone. Je vous réponds d'Italie, voilà.
Et vous êtes le traducteur officiel du professeur Eddy Bouraoui. D'ailleurs, vous lancez une comédie musicale qui s'en vient ce mois-ci, n'est-ce pas, en Italie.
Oui, c'est ça, donc le 25, Rose des Sables, donc deviendra donc une comédie musicale, voilà.
J'espère qu'un jour...
présenté à Aquaville, en Italie.
J'espère que vous aurez l'occasion un jour de transporter cette comédie musicale à Toronto, au Canada, hein. Pourquoi pas?
Oui, je l'espère bien. J'espère avoir avec moi quelque chose donc pour le mois de mai, voilà.
Alors, il est là, il vous écoute et vous pouvez parler, dialoguer. Nous sommes en duo, en contact.
Oui, c'est très content. D'ailleurs, Eric, j'ai passé tes salutations à Eric Aaron, les deux. Donc, ils étaient contents d'avoir de tes nouvelles. Et moi aussi, je ne m'attendais pas, c'est une bonne surprise. Je remercie Eric de nous avoir mis en relation téléphonique. Et voilà.
Et je pense d'ailleurs que, professeur D'Ambrosio, vous avez lu, vous êtes au courant de ce dernier roman, Paris berbère. Quelques commentaires?
Oui, bien sûr. Donc, je l'ai lu, donc je connais tout ça. J'ai beaucoup apprécié. Et donc, c'est un roman d'une très grande modernité.
Et c'est un dialogue, d'ailleurs, qui se poursuit, ce débat sur la place des artistes, sur le monde du berbère, ce dialogue dans la Méditerranée, tout ça, ça se poursuit, hein.
Ah oui, bien sûr, c'est une grande actualité. D'ailleurs, donc au début du roman, donc Eddy Bouraoui met en évidence que c'est un problème qui taraude encore aujourd'hui la conscience des Français. Donc il y a un extrait d'un journal, je ne me rappelle plus lequel, pour l'instant, dont il dit que donc De Gaulle a trahi les Harkis, donc les Français donc savent très bien qu'ils n'ont pas disons, respecter donc les droits des Harkis qui ont combattu à côté des Français.
Mmh. Alors, écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion de se parler tout au long du mois de mars. D'ailleurs, les micros sont ouverts. Vous êtes parmi nos invités partenaires pour célébrer la langue française en Amérique du Nord, mais aussi à travers le monde. Et cela nous fait toujours un grand plaisir de vous recevoir à nos micros.
Merci, merci Eric, et au revoir, monsieur Mouraoui.
Au revoir.
À la prochaine.
À la prochaine, oui.
Je vous vois,
Non, 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 il n'y a pas de protocole. C'est une bonne manière de faire que Nicolas a toujours vis-à-vis de moi.
Oui, oui. Allez, passez une bonne journée. Bien le bonjour à la famille. Hein.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci. Alors, revenons pour terminer. Nous allons en parler tout au long du mois, mais moi, j'aimerais bien parler de cette conquête à la guerre d'indépendance, en passant par la colonisation, les relations entre la France, son voisin maghrébin, sont une suite de tragiques événements. Comment, pourquoi on est arrivé là? Je voulais aussi vous poser une autre question. Quel sens cette guerre a pour les Canadiens? Vous savez, la guerre d'Algérie. Il me semble que les Canadiens, quand nous avons fait la publicité de votre... et d'annoncer votre passage à l'émission, j'ai eu très très peu de réactions, comme si que les gens sont ignorants de la guerre d'Algérie, et je ne veux pas viser qui que ce soit, mais j'ai l'impression que les Canadiens sont très éloignés de ce moment très tragique de notre histoire.
Tout à fait.
Et donc, si vous aviez un rêve que vous aimeriez réaliser, quel serait votre rêve le plus cher, justement?
Écoutez, le rêve le plus cher, c'est que au moins on connaisse un petit peu la tragédie qu'a vécue, non seulement l'Algérie, mais toute l'Afrique, en fait. Vous savez que cette année, c'est formidable, que cette année, ça va être le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, 1962. Donc, il va y avoir beaucoup de célébrations. Je suis prévu à Paris pour faire des conférences sur Paris berbère et sur la guerre d'Algérie. Moi, je ne suis pas historien, je suis littéraire, mais mon rêve le plus cher, c'est que les différences dites intraitables, encore une fois, soient bien mises de côté et que l'on puisse dialoguer dans la dignité, et nous sommes pour la francophonie, vous avez évoqué la francophonie, parce que nous, vous et moi, et tant d'autres qui s'appellent francophones et qui ne sont pas nécessairement français, nous voulons la liberté, l'égalité et la fraternité, nous voulons le dialogue entre toutes les races, les religions, les différences, tout ce qui se passe, et d'atténuer de plus en plus cette recherche de la guerre à chaque fois qu'il faut résoudre un problème. Et c'est pour cela, par exemple, la révolution dite du jasmin en Tunisie s'est passée pacifiquement. On a perdu quand même comme pas mal de gens. Il y a eu aussi milliers de blessés, etc. Mais dans l'ensemble, ça a été pacifique. Le côté triste, c'est que quand un pays africain, regardez ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé avant-hier en Côte d'Ivoire, regardez ce qui s'est passé en Haïti, etc. Lorsque les dits francophones accèdent à un peu de démocratie, nous avons nos frères et nos sœurs qui se mettent en position de, disons, post-colonialisme, néo-colonialisme, qui ont hérité de la période coloniale et qui s'imposent aveuglément sur leur peuple. Et maintenant, on a encore un autre problème, c'est le problème de l'islamisme qui a récupéré, par exemple, en Tunisie, en Algérie, en Algérie, ça a été fait bien longtemps, mais je veux dire en Égypte, au Maroc, un gouvernement islamiste. Bon, je dois avouer que moi, j'aime pas séparer. Je crois qu'il faut séparer religion de la politique.
Et d'ailleurs, vous suivez sans doute les élections présidentielles en France cette année. Ça refait surface encore, hein, parce qu'on parle de ces musulmans qui demandent à accéder à des lieux de prière, qui prient dans les rues. On parle de halal, la viande halal, et puis non au vote des immigrants. Et on ne cite pas les musulmans clairement, mais on sent qu'il y a un malaise.
Oui,
et quand on sait que les candidats du Front National qui parlent ouvertement qu'il faut cesser, on ne doit pas reconnaître. Alors comment justement refouler toutes ces générations qui ont contribué à la liberté, au développement de la France? C'est très compliqué.
C'est très compliqué parce que bon, ils ont aidé, mais aussi il y a des abus parfois. Oui, et quand on prend les abus, on les transforme à quelque chose de négatif. Et des deux côtés, enfin, c'est pour cela que dans le roman Barry Berber, j'ai été d'être assez objectif, aussi bien pour les Français que pour la Maghrébine, ok? Et au fait, j'étais content quand quelqu'un m'a dit, c'est écrit avec ni langue de bois, ni manichéisme, c'est-à-dire le bon et les mauvais.
À mon avis, mon humble avis, vous avez essayé d'apporter ce devoir de mémoire.
Tout à fait.
Et pour essayer, en tant que vivant, remonter l'histoire et en réparer peut-être les injustices.
Tout à fait. Oui, essayer de réparer l'injustice et de comprendre où est-ce que, pourquoi on est arrivé là. Pourquoi on est arrivé à ce...
Et comment éviter aussi, et comment apprendre des leçons du passé.
Tout à fait. Nicolas l'a dit, une prise de conscience. Darazi l'a dit, une prise de conscience. Et c'est cette prise de conscience qui est nécessaire de manière à éradiquer les injustices et de créer des zones de tolérance et de paix entre tout le monde.
Rafik Adaraghi de la presse de Tunisie en novembre écrivait « Elie Bourraoui puise son inspiration dans la littérature mais aussi dans la réalité sociale. Sans ambiguïté, parfois avec dérision, il joue du regard en arrière pour évoquer la réalité sociopolitique de l'époque, mêlant ainsi passé et présent. » J'aime bien ça.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. C'est un excellent article de mon ami Adaraghi. J'espère qu'il est en train de nous écouter à présent.
Vous savez quoi? Maintenant, je peux vous dire la vérité.
Oui.
Je peux lâcher le secret, faire sortir le chat du sac.
Ah bon?
Ben oui, j'ai essayé, j'ai appelé, j'ai laissé des messages, mais il n'a pas répondu.
Oh là là, c'est dommage.
Professeur Bourraoui, ça fait toujours plaisir.
Merci, Harry.
Et puis, on garde le contact tout le long du mois de mars. Vous êtes invité au salon.
Merci beaucoup.
Merci
beaucoup, Eric.
Popourri, CUT, FM, Toronto. Et oui, mesdames, messieurs, si vous voulez réagir à cet entretien Paris Berber aux éditions Vermillon, vous allez d'ailleurs sur le site d'Elie Bourraoui, vous cliquez Elie Bourraoui sur la toile, vous allez tout avoir et accéder à son page, sa page plutôt, site web. Et aussi, c'est très intéressant de voir un peu tous les romans que vous avez publiés, quoi. Une quarantaine de romans, plus que ça?
Non, j'ai publié une quarantaine de livres.
Voilà.
Oui, une douzaine de romans,
ouais.
Et 20 pour Résipoïdie.
Ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup, voilà.
Et oui, il continue, madame, monsieur, et on vous invite à réagir. Et si vous voulez participer à ce dialogue des cultures dans le cadre du mois de la francophonie, tot.courrier@sympathico.ca. Dans un instant, l'actualité en brasse avec nos amis à RFI Paris.
From the roof up, CIUC 89.5 FM, Toronto.
Afrique. Nicolas Hill.
Bonjour à tous. Les États-Unis s'opposent de front à la Banque mondiale à propos de Madagascar. La Banque mondiale souhaite reprendre ses financements à destination de la Grande Île. Mais Washington, qui juge toujours illégitime le gouvernement d'Andra Zoël, n'est pas d'accord, nous le verrons. Un attentat suicide hier matin contre la gendarmerie de Tamanrasset dans le sud de l'Algérie. Le kamikaze a été tué, une vingtaine de personnes blessées. C'est la première fois que cette région est frappée par le terrorisme. L'attentat a été revendiqué par le mouvement Unicité et Djihad en Afrique de l'Ouest, qui détient trois otages européens enlevés en octobre dernier à Tindouf et qui hier a réclamé 30 millions d'euros pour leur libération. La journée africaine de l'environnement était célébrée hier au Tchad, journée consacrée particulièrement au lac Tchad, pratiquement effacé de la carte en 40 ans par l'avancée du désert. Les sports enfin du football, certains clubs lui auraient fait un pont d'or, mais il va rester en Zambie. C'est fait, le français Hervé Renard a re-signé comme entraîneur des Chipolo Polo, une équipe qui l'a conduite sur la plus haute marche du podium lors de la dernière CAN. Madagascar, pomme de discorde entre les États-Unis et la Banque mondiale. La Banque mondiale a annoncé qu'elle reprenait ses financements à destination de la Grande Île, plus de 150 millions d'euros gelés depuis la prise de pouvoir d'Andra Zorel en 2009. Mais Washington, de toute évidence, ne l'entend pas de cette oreille. Bilal Tarabé.
Selon les États-Unis, le gouvernement à Madagascar est un gouvernement illégitime. Le communiqué de presse de l'ambassade américaine poursuit, les États-Unis vont tenter d'empêcher tout réengagement de la Banque mondiale à Madagascar. Pourtant, toujours selon le communiqué, les États-Unis savent que la Banque mondiale vise à favoriser les programmes concernant la pauvreté extrême. En effet, la Banque mondiale a décidé de débloquer ses aides au gouvernement malgache après la publication des chiffres concernant la pauvreté dans la grande île. Depuis l'arrêt des financements internationaux, la pauvreté a augmenté à Madagascar. L'aide internationale représentait jusqu'en 2009 deux tiers du budget de l'État malgache. Les États-Unis ont droit de veto au conseil d'administration de la Banque mondiale. De son côté, l'ONU a annoncé lundi dernier qu'elle débloquerait, elle aussi, ses aides financières au gouvernement de transition de Madagascar. Bilal Tarabet, Antanana Marivou, RFI.
Alors que les tensions sont au plus haut entre le Soudan et son voisin du Sud-Soudan, ce rassemblement aux allures de démonstration de force hier à Khartoum, un millier de membres de la force de défense du peuple, milice formée lors de la guerre civile, ont paradé dans un stade de la capitale soudanaise. À 13 ans à ce rassemblement, le premier du genre depuis 2005, le président Omar el-Béchir et son ministre de la Défense, Abdelrahim Mohamed Hussein, visés il y a deux jours par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, tous deux ont dansé ensemble lançant des paroles de défi contre la CPI. C'était le bastion des Chebabs dans l'ouest de la Somalie. La ville stratégique de Baidoa est sous le contrôle de l'armée éthiopienne depuis une dizaine de jours. La vie y reprend peu à peu, mais pas sans mal. Les populations sont soulagées du départ des insurgés islamistes, mais la peur n'a pas totalement disparu. Le reportage de notre envoyé spécial, Stéphanie Braqueuil.
Une vingtaine de chefs traditionnels, longs barbes, tantôt aînés, tenant parfois un bâton et vêtus d'un pantalon ou d'un mahawis, tissu noué autour de la taille, sont réunis. Ils ont été convoqués par Mohamed Ibrahim Afsadé, député somalien et interlocuteur clé des Éthiopiens. L'un des anciens, Maalim Ali Barré, prend la parole.
Nous sommes les anciens, les malaks, ce qui veut dire chefs en Somalie. Les Chebabs, même s'ils ont quitté Baidoa, nous appellent depuis là où ils sont et nous menacent, nous disent qu'ils vont nous tuer, mais nous n'avons pas peur.
Une réconciliation n'est possible qu'avec les Somaliens, pas les étrangers, dit-il.
Les Chebabs qui sont d'origine somalienne, il n'y a pas de problème, ils peuvent revenir. Et les combattants étrangers, eux, doivent partir.
D'autres s'inquiètent de l'avenir de la région quand les Éthiopiens partiront. Cher Amin Cheikh Abdoulaye.
Nous avons besoin que les Éthiopiens restent longtemps car nous n'avons pas assez de force. La police ou l'armée ne sont pas prêtes. Jusqu'à ce que nous soyons pris, il faut qu'ils restent.
Si ces anciens affirment que les Éthiopiens sont les bienvenus, la population fait en général les frais de ces fins de règne. De nombreux commerçants n'ont pas rouvert leurs magasins, craignant des représailles si les insurgés reviennent un jour en ville. Selon certaines sources, les nouvelles autorités somaliennes auraient également annoncé que tout commerçant ne rouvrant pas son magasin serait considéré comme pro-Chebab et donc ennemi.
À Mogadiscio, une voiture piégée a explosé hier près d'une base de soldats burundais de l'AMISOM, la mission de l'Union africaine en Somalie. Le conducteur a été tué et deux passants légèrement blessés. Le mouvement Unicité et Djihad en Afrique de l'Ouest réclamerait 30 millions d'euros pour libérer les trois humanitaires européens en octobre dernier à Tindouf en Algérie. Ce groupe islamiste apparu récemment a également revendiqué l'attentat suicide qui a secoué hier matin Taman Rasset dans l'extrême sud de l'Algérie. Jusqu'à présent, cette région proche des frontières maliennes et nigériennes avait été épargnée par le terrorisme. C'est le siège de la gendarmerie qui a été pris pour cible. Un kamikaze s'est fait exploser, il a perdu la vie. 23 autres personnes ont été blessées. Serge Daniel.
Moins de 3 mois après sa création, le mouvement Unicité et Jihad dans l'Afrique de l'Ouest signe son premier attentat. Et pas n'importe où, à Tamarasset, dans le sud algérien, un endroit où jamais un attentat à l'explosif n'a été commis. C'est également la première fois que des katibas sahéliennes, c'est-à-dire des unités combattantes d'islamistes armés installées dans le Sahel, remontent en Algérie pour commettre un attentat. Les membres du groupe, qu'on peut appeler encore membres d'Al-Qaïda en Afrique de l'Ouest, sont pour chef un ressortissant mauritanien, et parmi les combattants figurent de nombreux ressortissants de l'Afrique subsaharienne. Leur idéologie se réfère à feu Oussama Ben Laden et au Mullah Omar, chef des talibans en Afghanistan, et à des figures historiques de l'islam en Afrique de l'Ouest. Trois otages espagnols et italiens sont aux mains du même groupe. C'est une source d'inquiétude. C'est pourquoi, après Alger, le ministre espagnol des Affaires étrangères vient de terminer un séjour à Bamako pour parler du sort des otages. Les ravisseurs exigeraient la bagatelle de 30 millions d'euros pour les libérer. Serge Daniel Bamako, RFI.
La situation dans le Nord Mali, armée et rebelles touaregs du MNLH se font toujours face autour du camp militaire de Tessalit, où de violents combats ont éclaté mercredi. Sur le plan humanitaire, on le sait, depuis le début de la rébellion mi-janvier, des dizaines de milliers de personnes ont fui des affrontements. Le Haut Commissariat aux réfugiés, qui tente de les prendre en charge, prend du temps pour les interroger. Fatoumata Lejeune Kaba, porte-parole du HCR pour l'Afrique.
Ce qui est assez intéressant, c'est que ces réfugiés nous disent qu'ils ne se sentent pas visés par les partis en conflit, c'est-à-dire ni les rebelles touarés, ni par l'armée malienne. Mais par contre, il y a beaucoup de vols, de bétail, les maisons qui ont été brûlées. Ils disent aussi qu'il y a beaucoup de bandits qui sont dans la région du Sahel, qui profitent de la situation actuelle pour commettre encore plus de vols, etc. Très généralement, lorsqu'il y a une situation de violence, on a beaucoup de cas, par exemple de viols, d'agressions sur les femmes, des enfants, beaucoup de séparations de familles. Il se trouve que dans le cas présent, avec les personnes qui fuient le Mali, on n'a pas ce type d'incident, ce qui est très très positif. En tout cas, pour le moment, on n'en a pas rencontré.
Fatoumata Lejeune Kaba, porte-parole du Haut Commissariat aux réfugiés pour l'Afrique, jointe par Guillaume Thibault. Le syndicat national des journalistes tunisiens dénonce les attaques de certains ministres et de certains députés de l'Assemblée constituante contre les journalistes. Dans une déclaration à la chaîne satellitaire Al Jazeera, le ministre tunisien des Affaires étrangères avait accusé la presse de déformer les réalités et de minimiser les réalisations du gouvernement. Par ailleurs, samedi dernier, des journalistes ont été agressés par des agents de sécurité lors d'une manifestation de la centrale syndicale UGTT. Le syndicat des journalistes retient le principe d'une grève générale pour protester contre ces violences. En Afrique du Sud, Julius Malema, le leader de la Ligue de Jeunesse de l'ANC, le parti au pouvoir, a fêté hier ses 31 ans. Avec ses partisans dans le Limpopo, sa province d'origine, s'adressant à des militants dans un rassemblement de la Ligue des femmes de l'ANC à Polokwane, il a juré qu'il resterait membre du parti jusqu'à sa mort. Aussi virulent qu'à son habitude, Malema a rejeté tout simplement la décision d'exclusion qui a été prononcée mercredi par les instances disciplinaires du parti. Sophie Ripstein.
Je n'ai pas adhéré de manière volontaire à l'ANC. J'ai été recruté à l'âge de 9 ans et je resterai membre jusqu'à la fin. C'est ce qu'a affirmé Julius Malema. Il refuse d'admettre qu'il ne peut plus faire partie du Congrès national africain. Depuis son exclusion mercredi dernier, ses partisans se sont dressés contre le comité de discipline de l'ANC. Selon eux, leur champion Doudou restera comme prévu jusqu'en 2014 dans son fauteuil de président de la Ligue des Jeunes. Ils n'hésitent pas à affirmer que les méthodes intolérantes de leur parti sont comparables à celles qui étaient utilisées sous le régime d'apartheid. Les supporters de Malema se sont encore en position de force puisqu'ils contrôlent la Ligue de la Jeunesse dans 6 provinces sur 9. D'ailleurs, les commentateurs s'accordent à dire que Malema est loin de disparaître de la scène politique. Il lui reste encore une dizaine de jours pour faire appel et tenter d'éviter l'exclusion. Et puis, le jeune Trublion peut encore saisir le comité national exécutif de son parti.
Acte crapuleux ou agression politique au tiers d'une employée du PNUD, le programme de développement des Nations Unies a été victime d'une violente agression vendredi après-midi devant son domicile à N'Djamena. Selon des sources concordantes, cette ressortissante franco-tchadienne, qui par ailleurs est l'ancienne épouse du chef rebelle Adoum Yacoub, a été frappée par plusieurs hommes et braquée avec une arme sur la tempe. Selon l'un de ses proches, l'arme s'est enrayée et les agresseurs se sont enfuis avec quelques effets personnels à terroriser. La victime a été placée en sécurité. En République démocratique du Congo, Adolphe Mouzito a réuni hier son gouvernement pour la dernière fois à Kinshasa. Après les élections présidentielles et législatives, Joseph Kabila, déclaré président élu, doit désigner un formateur qui sera chargé de recruter des ministres pour le prochain gouvernement. gouvernement, plusieurs noms ont été cités pour la succession d'Adolphe Mouzito. Au Sénégal, les deux camps qui s'affronteront au second tour de la présidentielle d'ici à la fin mars affûtent leurs armes. D'un côté, Macky Sall noue plusieurs alliances avec les principales coalitions de l'opposition. De l'autre, le président sortant, Abdoulaye Wade, compte sur une mobilisation massive des électeurs. Binta Diagne.
Dans la coalition des forces alliées 2012 qui porte la candidature d'Abdoulaye Wade, l'heure est à la mobilisation. Selon le professeur Ibader Thiam, un des responsables des phases 2012, la coalition cible près d'un million d'électeurs qui pourraient soutenir Wade au second tour. Il y a là des abstentionnistes, notamment dans les régions de Mbacké, de Dakar et du Fouta dans le nord du pays. Et parmi cette potentiel soutien figure également plusieurs élus locaux et porteurs de voix qui n'ont pas été actifs au premier tour. Au même moment, la coalition Macky 2012, qui porte la candidature de Macky Sall, multiplie les accords de principe et les visites de courtoisie avec les candidats de l'opposition qui militent contre la candidature de Wade. Moustapha Niass, qui s'est classé troisième au premier tour, Ousmane Tanordien et Idriss Essaq ont annoncé cette semaine qu'ils soutiendraient Macky Sall. Ce dernier bénéficie aussi de l'appui de la société civile, notamment du mouvement du 23 juin, du collectif de rappeurs d'Ornama et des Assises nationales. Binta Diagne, Dakar.
La journée africaine de l'environnement a été célébrée hier au Tchad, une journée rebaptisée lors du dernier sommet de l'Union africaine, journée Wangari Maathai, en hommage à cet écologiste kenyan, prix Nobel de la paix, qui est décédé au mois de septembre dernier. Le président de la commission de l'Union africaine, Jean Ping, était d'ailleurs présent hier aux cérémonies à N'Djamena. Les débats ont été particulièrement marqués par la situation du lac Tchad. Mathias Ranakour.
L'Union africaine et les autorités tchadiennes ont voulu marquer le calendrier à quelques jours du 6e forum mondial de l'eau prévu à Marseille en France. Il est de bon ton de lancer un plaidoyer en faveur du lac Tchad. Et c'est le président tchadien qui s'en charge, Idriss Déby Itno.
Faisant front au nord, le lac Tchad symbolise la résistance contre l'avancée du désert en Afrique. Il constitue pour les bassins miniers et forestiers africains un bouclier unique, le verrou à protéger à tout prix. Le lac Tchad n'est pas seulement tchadien, il est africain, il est bien mondial et mériterait amplement d'être inscrit au patrimoine de l'humanité.
Une excursion est organisée à l'attention des invités ce dimanche sur le lac Tchad pour leur permettre de constater l'ampleur de son assèchement. Instauré il y a 10 ans par la Commission de l'Union africaine, la Journée africaine de l'environnement est célébrée chaque année dans un pays membre de l'Union africaine. Madias Ranako, Djamena, RFI.
En plus bref, cet accident de la route extrêmement meurtrier hier dans l'extrême-est de la Guinée, au moins 50 personnes ont péri dans cette région montagneuse. C'est un camion qui est à l'origine de la catastrophe, un camion qui transportait des dizaines de passagers ainsi que des marchandises. Selon un témoin, ses freins auraient lâché alors qu'il roulait à vive allure dans une descente. RFI, les 4h44 à Paris.
RFI, la radio mondiale. Il y a ce que vous écoutez sur la radio mondiale et il y a ce que vous écoutez ailleurs, mais qui passe aussi par RFI. Car sur les 5 continents, plus de 600 radios programment des émissions ou des musiques réalisées, concoctées, sélectionnées par l'équipe de la production musicale. Il s'agit en fait d'un formidable courant d'échange entre RFI et ses radios partenaires. C'est un groupe angolais dont la cassette nous est envoyée par Radio Luanda et dont les meilleurs extraits vont repartir via RFI vers le Chili, le Vietnam, les États-Unis. C'est aussi cet invraisemblable joueur de vielle que nous envoie Radio France 8 Dôme et que l'on va écouter à Lima, Jakarta ou Kampala. Chaque mois, 8 programmes musicaux sont proposés aux radios du monde entier. Beaucoup de chansons françaises, bien sûr, mais aussi un hit parade européen, une sélection de musique tropicale, du jazz, du classique, de la musique traditionnelle et parfois de la salsa. Thank you.
petite reprise d'un Sega de l'île Maurice. Je vous rappelle que, justement, en parlant de l'île Maurice, ça va pas très 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 bien parce que les gens ont eu toute une surprise dans une lettre au Premier ministre. Le parti La Lutte, pour bien le dire en créole, s'élève contre la participation d'un régiment des forces françaises, oui, en zone sud de l'océan Indien, le lundi 12 mars, le jour de la date de l'anniversaire d'indépendance de l'île Maurice. Pourquoi ce bateau est là? Que fait ce bateau dans l'océan Indien? J'espère que c'est pas un bateau qui est à la dérive, comme l'autre bateau qui est à la dérive aux Seychelles. Alors, on ne veut pas faire de jeu de mots, mais on voulait dire merci à tous ceux et celles qui nous ont appelés. Entre autres, nous avons reçu un appel de la région de Laval, Montréal, Québec, pour passer des commentaires sur l'entretien avec professeur Eddie Bouraoui et son roman Paris Berbère. Et merci beaucoup, monsieur. Nous essaierons peut-être de vous appeler avant la fin de l'émission, ou sinon la semaine prochaine. L'émission est un peu chargée aujourd'hui. Nous avons aussi salué The Artist, récompensé de 5 Oscars dimanche dernier à Los Angeles. Et oui, à leur retour en France, vous pouvez imaginer l'engouement à l'aéroport Charles de Gaulle. Et donc, les différents membres de la délégation française ont pris des vols différents, nous dit-on, pour échapper à la cohue à l'aéroport de Roissy. Parlant de Paris Berbère, parlant de l'Algérie, 50 Years of Algerian War in French Comics, c'est de la BD, oui, à l'Agence française de Toronto, que ça tombe bien, quelle coïncidence. C'est à la galerie Pierre Léon, 24 rue Spadina Road, à l'Alliance française de Toronto, mercredi le 7 mars, avec Marc McKinney, qui est professeur associé au département de français et d'italien à l'université de Miami, Ohio, où il enseigne des cours sur la bande dessinée, la littérature française et francophone et la langue française. Il est co-éditeur de Post-Colonial Cultures in France, sorti en 1997, et il est auteur de The Colonial Heritage of French Comics, paru en 2011. Sa conférence analysera l'histoire des représentations de la guerre d'Algérie dans la bande dessinée francophone. Incroyable! Quelle coïncidence, professeur Bouraoui. Quand la ville nous habite, à l'Alliance française de Toronto toujours, c'est une exposition, je pense, soit de naissance ou d'adoption, nous sommes pratiquement tous, en ce début du 21e siècle, des enfants de la ville. Et ben, c'est Quand la ville nous habite, quatrième cabaret chanson de la saison, et c'est prévu pour le vendredi 9 mars. D'ailleurs, c'est cabaret de la chanson à l'Alliance française connaît un succès fort retentissant, je vous y invite. Et je vous invite d'ailleurs à devenir membre à l'Alliance française de Toronto, étudiant, ça coûte $10. Pour les personnes adultes, c'est $15. Et téléphonez-nous, qui sait, peut-être pendant le mois de la francophonie, vous aurez l'occasion d'être en contact ou d'aller même vous balader dans les locaux de l'Alliance française de Toronto. Donc, à ne pas oublier, cabaret chanson, quand la ville nous habite, c'est le 9 mars prochain à partir de 19h30 à l'Alliance française de Toronto. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le site de l'Alliance pour tout savoir sur les activités culturelles et éducatives de l'Alliance française de Toronto. Vous écoutez Popourri CUT 89,5 FM, la deuxième radio la plus écoutée à Toronto.
Are you ready for this? pour Allah, fille.
Excusez mon ami, hein, il est un petit peu violent.
Ma voix est efficace, je fais danser les petits pas. Je fais bouger les ghettos, you, c'est les tarpés. Un beau gland très feu, que tu fasses.
Bonjour à tous. Maladie de Parkinson. Cette maladie neurodégénérative se caractérise par des tremblements, une raideur des muscles et une lenteur des mouvements. Elle touche 6,5 millions de personnes à travers le monde. C'est une maladie complexe qui peut être très invalidante et douloureuse. Alors pour en parler, je vous présente mes invités. D'abord Bruno Favier, qui est président de l'association France Parkinson, et normalement le professeur Pierre Césaro, neurologue au CHU Henri Mondor à Créteil. Je vous dis normalement parce qu'en fait il n'est pas encore arrivé. Donc
bientôt à l'émission, le magazine de RFI.
CIUC 89.5 FM, broadcasting live 24 hours a day, 7 days a week, from Hart House, University of Toronto.
Dans un instant, nous allons passer aux victoires de la musique avec notre ami en France, Serge Beyer, et hommage aussi à Chantal Joly, mais pour tout de suite... Chanson, c'est une chanson phare de la francophonie au Canada. Écoutez bien.
Crie-moi bon, c'est pas en Alaska, d'un sac qui s'ennuie en maudit. Sa blonde est partie gagné sa vie dans un cirque aux États-Unis.
Le phoque est tout seul, il regarde le soleil qui descend doucement sur le glacier. Il pense au matin en pleurant tout bas. C'est comme ça quand sa blonde t'a lâché.
Ça vaut pas la peine de laisser ce problème pour aller faire tourner des salons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne.
Quand les enfants sont dans quand le feu il regarde son poil comme les rues de New York après la pluie. Il rêve à Chicago, à Marilyn Monroe, il voudrait voir sa blonde faire un show.
Rien qu'une histoire, je peux t'en faire à toi, mais des fois, j'ai l'impression que c'est moi. C'est assis sur la glace, les deux mains dans la face, mon amour est parti, je m'en ai dit.
Toi aussi.
Mais oui, pas non. Ça vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son lit. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne
quand les enfants sont grands.
Vous écoutez Pot Pourri, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde, sur la bande CUT 89,5 FM. Une émission réalisée en partenariat avec Radio France Internationale, le département d'études françaises, l'Université de Toronto et l'Alliance française de Toronto. Pot Pourri, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde.
Au Japon, on consomme peu de graisse et le nombre d'infarctus y est plus faible qu'aux États-Unis. En France, on consomme beaucoup de graisse et le nombre d'infarctus y est plus faible qu'aux États-Unis. En Inde, on boit peu de vin rouge et le nombre d'infarctus y est plus faible qu'aux États-Unis. En Espagne, on boit beaucoup de vin rouge et le nombre d'infarctus y est plus faible qu'aux États-Unis. Au Brésil, on fait beaucoup plus l'amour qu'en Algérie et le nombre d'infarctus des deux pays est plus faible qu'aux États-Unis. Conclusion. Buvez, mangez, faites l'amour autant que vous voulez. Ce qui peut tuer, c'est parler anglais.
Et oui, mesdames, messieurs, si vous voulez participer à nos prochaines émissions dans le cadre du mois de la francophonie et la journée internationale de la francophonie, eh bien, vous nous téléphonez au 86 946 7000 si vous voulez être partenaire ou collaborer ou présenter vos perspectives sur le fait français à Toronto ou dans le monde ou en Ontario, pot.pourri@sympatico.ca ou inscrivez-vous à notre page Facebook, facebook.com/popourrichaud en un seul mot. Eh oui, alors, on me dit qu'il y a quelqu'un qui est au bout du fil, qui a écouté l'émission tout à l'heure. Il s'appelle, je pense, si ma mémoire est bonne, Assad. Oui, vous êtes là? Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur Assad, comment allez-vous?
Ça va, et vous?
Oui, ça va très bien. Alors, vous dites que vous avez écouté l'entretien avec le professeur Eddy Bouraoui, hein, sur son roman Paris Berbère, c'est ça?
Oui, je l'avais d'ailleurs lu, je l'ai lu, je l'ai relu à plusieurs reprises.
Ah oui.
Et comme je connais l'œuvre de Bouraoui, pour ne pas dire toute l'œuvre, et j'ai beaucoup aimé le roman, j'ai d'ailleurs donné mon opinion au professeur Eddy Bouraoui à travers les échanges courriels, mails entre lui et moi.
Oui, alors c'est très intéressant tout ça, parce que justement... il est dans ce mouvement pour créer un dialogue, et là, c'est de voir qu'il y a des auditeurs de la région du Canada qui osent prendre le temps pour lire et relire ses œuvres. Et qu'est-ce qui vous passionne chez lui?
Je pense qu'il y a plusieurs aspects, surtout facettes, hein, chez Eddy Bouraoui en tant qu'homme, en tant qu'humaniste, et aussi d'abord en tant qu'écrivain penseur. Et surtout poète. Je pense que les deux dimensions qui cohabitent chez l'écrivain, à la fois l'humaniste, pour un critique de son œuvre ou un simple lecteur, sont indissociables.
Mmh.
Pourquoi ? Parce que justement, c'est cet humanisme qui est mêlé dans son œuvre entière, que ce soit poésie, roman, y compris critique. Littéraire, puisqu'il est un critique littéraire, et aussi, c'est-à-dire ces choses-là, ces aspects-là, mêlés, explicitent clairement sa façon d'être et sa façon de penser le monde. Après tout, un roman, c'est dire le monde.
Mais, alors...
Et justement, c'est ça qui est frappant dans son œuvre.
Nous n'avons pas malheureusement beaucoup de temps, mais cela nous fait plaisir parce que c'est un peu une surprise tout ça, la façon dont vous avez appelé à l'émission aujourd'hui. Et présentez-nous un peu rapidement deux mots, ce que vous faites et qui vous êtes exactement.
Alors je m'appelle Boustan Berichi, je suis universitaire résident à Québec, au Canada, et je suis docteur en littérature francophone comparée, et donc je suis auteur de quelques livres sur la littérature francophone, et aussi d'un certain nombre d'articles, de conférences, et je vis au Canada depuis quelques années, donc j'ai vécu en France, en Afrique du Nord, en Algérie, où je suis né, en Kabylie plus exactement, et quand par hasard je suis, encore une fois, je tiens à le signer parce que c'est frappant quand même Paris Berbère, et ça part d'une région où je suis né, où j'ai vécu, c'est la Kabylie, donc mes origines amazighes berbères.
Voilà une grande richesse pour le Canada. J'aimerais beaucoup vous inviter à participer à nos émissions spéciales dans le cadre du mois de la francophonie au mois de mars, si vous êtes partie prenante, on aimerait ça vous appeler. Et aussi, on aimerait pour reposer la question pour voir quelle est la place et le rôle de nos auteurs, de nos écrivains, de nos poètes canadiens dans le monde francophone et quelle place, quel rôle devraient-ils jouer et devraient-ils prendre position des fois dans certains débats, que ce soit politique, culturel, social, parce qu'il me semble que, comme par exemple, le grand talent et la richesse du professeur Bouraoui est complètement effacé sur la scène canadienne. C'est pour cette raison qu'on aimerait continuer à parler de ce roman tout au long du mois de mars. Et si vous êtes d'accord, on aimerait vous y inviter.
C'est avec plaisir en tout cas. Je viens de découvrir en fait votre émission très intéressante, excellente, où je m'informe au fur et à mesure que j'écoute votre émission aujourd'hui, et je trouve ça très très intéressant et excellent parce que C'est ce qui manque justement dans le travail radiophonique, non seulement au Canada, mais surtout à travers le monde, mais surtout au Canada. C'est-à-dire des émissions aussi intéressantes, qui parlent de littérature, de culture, et ça c'est de plus en plus rare, parce que les médias de plus en plus sont tournés vers autre chose que la mission initiale, qui est justement d'informer, et surtout d'être à l'écoute des lecteurs, des auditeurs, et d'être en quelque sorte le pont entre les producteurs d'idées de pensée, comme dit Bouraoui, et les lecteurs, les citoyens moyens qui veulent justement s'enrichir, écouter des penseurs et leur dire c'est quoi la vision du monde, que faut-il faire pour vivre ensemble dans un monde aussi meilleur, humaniste, etc.
Alors,
ça, je trouve très intéressant votre mission.
Nous essayons de refléter le mandat même de l'Université de Toronto et du campus de la radio universitaire, et je vous remercie beaucoup de ces compliments. Professeur Boustad Berouchi, c'est ça?
Berichi.
Alors, merci mille fois d'avoir participé. Professeur Bouraoui n'est pas loin de nous, mais on aimerait bien que ce dialogue se poursuive tout au long du mois de mars. Merci encore et passez une bonne journée.
Et bonjour au professeur Adi Bouraoui et à tous vos auditeurs.
Merci beaucoup, au revoir.
Merci, au revoir.
CIT FM, Toronto.
L'une des 500 radios partenaires de RFI dans le monde.
Mon mot préféré, c'est patate. J'aime la prononciation, ça se dit bien patate.
Mon mot préféré dans la francophonie, c'est le mot poulamont à cause de sa sonorité amusante et de son unicité québécoise. C'est le nom d'un poisson pêché à Saint-Anne-de-la-Pérade sous la glace. Dans une période donnée de l'année, c'est un petit poisson qu'on peut...
Voyez les nôtres tout au long du mois de mars, le mois de la francophonie, tot.courrier@sympatico.ca. Musique pour nos amis qui vous voyez, Laval, Paris, Tunisie, Algérie, bien le bonjour de Toronto. Et oui, les 27e victoire de la musique consacrée samedi, hier soir, deux des voix les plus singulières de la chanson française, longtemps oubliées de la cérémonie, Catherine Ringer et Hubert-Félix Stéphane. Saluer l'ascension du jeune rappeur Aurel San, que nous allons entendre dans quelques minutes. Hubert-Félix Stéphane a remporté ses premières victoires en 40 ans de carrière, celle de l'artiste masculin de l'année et celle de l'album de chansons pour supplément de mensonges. Cette première, malgré 16 albums studio et une influence revendiquée par nombre de jeunes artistes, est à l'image d'une figure du rock indépendant qui a construit sa carrière à l'écart du Star System. Eh oui. Jean-Louis Aubert a lui aussi été récompensé pour la première fois en 35 ans de carrière par les victoires, en remportant celle de la tournée de l'année. Autre grande figure un peu oubliée des victoires, Catherine Ringer a été sacrée artiste-interprète féminine de l'année. Et en la récompensant, les victoires de la musique ont salué l'une des voix les plus singulières de la chanson française qui a décidé de poursuivre seule l'aventure musicale entamée avec les Rika Mitsuko. Vous vous souvenez? Pour surmonter la douleur de la disparition de Fred Chichin. Accompagnée de son ombre bienveillante, Catherine Ringer a publié l'an dernier, je vous rappelle, son premier album en solo, Ring and Roll, Because, un bouleversant hymne à la vie et à l'amour. Autre grand vainqueur de la soirée, le rappeur Aurel San est reparti avec deux trophées, celui de la révélation du public et celui de l'album de musique urbaine pour le chant des sirènes. Cette double consécration à la profession du public et à un goût de revanche pour le jeune rappeur, souvent comparé à l'anglais The Streets, après la polémique qui avait marqué ses débuts médiatiques. Camille, autre grande favorite de la cérémonie, avec trois nominations, est en revanche reparti produit. Ferrat, François Hollande, le candidat François Hollande, ça vous dit quelque chose, qui avait publié la veille dans Le Monde, le journal Le Monde, une tribune sur Adopi, et la création de l'ère numérique est venue assister à la cérémonie. Il a provoqué ainsi une cohue dans les coulisses où il est allé à la rencontre des artistes et des patrons de labels dont certains se sont inquiétés de sa volonté de supprimer la loi Adobe. Dans un instant, nous allons parler à Serge Beillet qui nous attend quelque part. Serge Beillet est le président, fondateur, éditeur en chef du magazine qui ne s'achète pas, qui vous parle de la musique francophone du monde entier, y compris du Québec, du Canada. Il sera des nôtres, mais pour tout de suite, nous allons entendre en exclusivité Hubert Félix Kéfan.
Frelons hurlants dans nos crânes, scorpions rampant dans le crash de nos âmes, serpents vicieux englués dans les toiles de nos bourbeuses mémoires d'humanoïdes insanes. Nous ne sommes que les branleurs gélatineux babouins, des crapauds de glandeur, clous les sacs à vin. Combien d'envie de tout plomber, envie de tout tracer, de tout désintégrer, faire jamais les télés avant que de crever de peur dans les coulisses des shows climatisés. Soleil cafard, futur glacé, matin blafard, cerveau détraqué, fleuve suburbaine, craque de beauté, ange de la haine, fin programmée. Soleil cafard, futur glacé, matin blafard, cerveau détraqué, fleuve suburbaine, craque de beauté, ange de la haine, fin programmée. Casqué des incels, rottweilers devant les maternelles, bannières des étoilées, caméras et dentelles.
Ah oui, Hubert Félix Kéfan qui a remporté ses premières victoires à 40 ans de carrière, madame, monsieur. Victoire de la musique. Dans un instant, nous allons accueillir Serge Beillet. Mesdames et messieurs, cela nous fait plaisir d'accueillir en exclusivité le fondateur, rédacteur en chef du magazine qui ne s'achète pas. Le magazine Longueur d'onde, Serge Beillet. Eh oui, bonjour, cher ami. Ça va? Quelle présentation, hein?
Ouh là là.
Tapis rouge, s'il vous plaît.
On se croirait à Rome.
Hein. Oui, oui, oui. Alors, avant de parler de notre grand ami, celle qu'on a perdue, j'ai vraiment été très, très attristé. J'aimerais qu'on parle un petit peu des victoires de la musique ou vice-versa. Oui. On peut parler de Chantal, je dis, ou on peut parler des victoires de la musique.
Non, mais je voulais juste reprendre un tout petit truc. Il me semble bien que Kéfan, ça fait 30 ans de carrière.
Et on m'a dit 40 ans, mais c'est qui
tu veux dire? C'est un petit peu le vieillir, hein, je pense. Non, non, parce que justement, figurez-vous que Longueur d'onde va fêter ses 30 ans cette année.
Oui.
Et on a décidé de faire une rencontre un petit peu au sommet avec un artiste qui a 30 ans de carrière, un autre qui a 20 ans et un autre qui a 10 ans.
Ah, oui.
Donc justement, ça se passe la semaine prochaine. On va faire ça à Paris et ce sera aussi une émission radio qui sera diffusée sur RFI. Mmh. Et on fait se rencontrer Hubert Félix Kéfan, Dominique A, et puis Moriarty, la chanteuse Rosemary du groupe Moriarty, qui a à peu près 10 ans de carrière.
Voilà. Bravo, bravo,
c'est
bravo.
C'est pour ça que je pensais que, en fait, Kéfan n'a que 30 ans de carrière. C'est déjà pas mal.
Alors, je parlais justement des grands gagnants de ce concours. Je pense que c'était vraiment la fête à Catherine Ringer, entre autres.
Oui. Oui, tout à fait.
Et puis, nous allons jouer tout à l'heure, présenter à nos auditeurs qui connaissent encore un peu mal, je pense, à l'artiste Orelsan.
Mm-hmm.
Qui est un...
Orelsan, en fait, c'est un jeune rappeur qui a fait parler de lui en France il y a à peu près 3 ans avec son premier album et surtout avec un titre qui avait tourné pas mal sur Internet et qui avait fait beaucoup de bruit parce que il s'adressait plutôt dans un langage fleuri à une jeune fille qu'il avait laissée et ça avait fait toute une polémique parce que c'était un peu à la limite pas vraiment agressif.
les groupes, oui, les groupes, voilà. Les groupes féministes n'étaient pas très contents. Vous voyez. Vous savez, j'étais là hein, hier soir, mais je vous ai pas vu. Par contre, j'ai vu François Hollande. François Hollande était présent.
Oui. Oui. Oui, tout à fait. Oui. Bah, c'est tout à fait normal. J'espère bien qu'il s'intéresse à la musique aussi. Il y a intérêt.
Oui, en effet. Et puis.
Il y avait aussi notre ministre actuel de la culture qui était là. Je l'ai vu de loin.
Oui. Alors, donc, les gens savent comment gagner des élections, hein.
Bon, ils font la chasse comme partout, ils font la chasse partout, c'est possible de la faire. Hein.
Oui. Je voulais parler de quelqu'un qu'on n'a pas tellement entendu, et c'est, je pense, les auditeurs de France Inter et les téléspectateurs de France 2 qui ont choisi Laurent Voulzy et sa chanson Jeanne pour ses victoires 2012. Ça, c'est intéressant, hein.
Oui, c'est le prix du. C'est, en fait, c'est le public qui a donné ce prix-là. Et ils avaient le choix entre plusieurs chansons, et c'est en effet Voulzy qui a gagné. Voulzy qui vient sortir ce nouvel album dont la seule chanson écrite avec Souchon est celle-ci, Jeanne. Ouais. Et tout l'album est assez moyenâgeux au niveau de la musique. Et ce qui est un peu plus étonnant et qui m'a un peu plus déçu, c'est qu'il y a pas mal de titres en anglais. Je vois pas trop l'intérêt, mais bon.
Il est originaire
en tout cas, de... cette chanson-là est de La Réunion. Hein.
De La Réunion, oui. Je pense qu'il est originaire de la Guadeloupe.
Ah, d'accord.
Oui, il est de la Guadeloupe, mais il est très connu à La Réunion, à l'île Maurice, dans l'océan Indien. Ça fait longtemps qu'il est là. Alors, parlons un peu de cette disparition. Vous avez connu, côtoyé, travaillé avec Chantal Joly.
Avec Chantal.
Et on a parlé aussi de vous à un moment donné, parce que je me souviens, on a eu plusieurs conversations ensemble. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez appris la nouvelle?
Oula. Alors déjà, moi, je l'ai connue il y a une dizaine d'années. Elle m'avait invité à une de ses émissions. Et on a tellement sympathisé qu'à chaque fois que je venais, elle m'invitait, on faisait des émissions ensemble. Ça devenait des émissions d'une heure, ou je sais plus, c'était assez long, ces émissions. Et je me rappelle surtout de nos fous rires, c'était extraordinaire. C'était une femme, c'était la vie même, quoi. Elle pétillait. Oui. Et en plus, elle pétillait d'intelligence. C'était un vrai bonheur. On se racontait des blagues plus ou moins à l'antenne, enfin, en parlant des artistes, puisqu'on les connaissait, on les côtoyait aussi. Oui. Et je me rappelle d'une fois, on rigolait tellement qu'elle n'arrivait plus à reprendre la parole. Et j'ai dû faire des signes à Martine qui faisait la réalisation derrière pour lui dire de lancer le disque, etc. elle n'en revenait pas d'ici. C'est la première fois qu'un invité s'empare de mon émission. Enfin, on rigolait. Et il y a à peu près au début de sa maladie, en fait, moi j'étais pas vraiment prévenu, et puis on devait se retrouver dans le restaurant, et on était 5-6, et puis je vois une femme rentrer, et franchement je l'avais pas reconnue. C'est un choc de la voir comme ça. Je ne savais pas qu'elle était malade, et surtout pas à ce point-là déjà. Et on a beaucoup discuté, on s'est revus souvent avec un ami, on l'a amenée au restaurant, parce qu'elle était un peu seule hein, aussi. Oui. À ce moment-là, elle n'était plus à Radio Cannes, et c'était un peu douloureux pour elle. Donc, elle faisait encore des choses, tout ce qu'elle pouvait faire pour le site internet de Radio. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait. Elle était toujours très amoureuse de la musique, de la world music surtout en particulier.
Exactement.
Et donc, on la voyait, enfin, moi, chaque fois que je venais au Québec, je la voyais. Et mon dernier souvenir, et là, c'était l'an passé au Francofolie de Montréal. Elle était venue à un concert, elle était en chaise roulante, puisqu'elle pouvait plus marcher, et puis on avait, encore une fois, beaucoup rigolé.
Mmh.
Voilà, c'est tout. Moi, franchement, Chantal, pour moi, le ce que je garde, c'est des éclats de rire, quoi.
Oui. Ce qui est très intéressant, il y a eu beaucoup de commentaires sur le blog, entre autres, bon, il y a des dizaines et des dizaines, entre autres, je vais vous lire juste un commentaire que je trouve assez pétillant et intéressant. Mmh. Quand vous êtes arrivé à Radio-Canada, Chantal, on pratiquait encore la voix d'estrade, solennelle, pédante, la voix à claque, avec votre ton frais et piquant, celui d'une vraie Française, pas d'une se prenant pour, vous avez mis du cœur, du soleil et du sexe dans le poste. C'est
bien ça. Elle était tout ça.
Oui,
je suis bien d'accord.
Écoute, mon cher ami, cela m'a fait vraiment plaisir qu'on rende hommage à notre façon, à notre camarade. Chantal Joly, qui a fait beaucoup pour la musique, pour les artistes et surtout pour la world music. Je pense que c'était une des premières et pionnières de la world music à Radio-Canada. Ouais. Et elle va nous manquer énormément. Et au nom de tous les auditeurs et internautes et amis, on vous dit merci Chantal d'avoir été là pour nous.
Oui, et on la garde en nous.
Oui, bien sûr. Allez, je vous laisse avec le chanteur rap Orelsan. Merci encore et on se voit très bientôt, mon cher ami. Au revoir. Orelsan, rappeur, victoire de la musique, grand vainqueur, hier soir, à Paris.
Tirer mon album en cassette, rajoute femme derrière et devine qui baisse sa mère en cassette. Faut que le gosse achète mon disque en criant mon précieux. Si t'as pas confiance en moi, tant mieux parce qu'on est deux. J'écris des textes comme si c'était des cours pour les vicieux. Rap à la sueur de mes boules et mes couplets ont un goût délicieux. Je me réveille avec des petits yeux. Après 19h, ensuite me branle finalement et je lis des affaires du center. Les têtes qui disent que mon pop peuvent aller faire enculer. Ceux qui marchent pas avec nous peuvent aller se faire abuser. Je suis complètement fumé comme mes grands brûlés. Ma mère trouve mes chansons de guerre alors c'était les versions censurées. Petite crise, c'est pas de me fréquenter. Où tu vas faire ton purgelage avant d'avoir perdu tes anglais. J'ai toujours été une victime, mais j'ai pensé à moins que je tente le suicide ou de refaire ma vie à l'étranger. Si je me fais courser du collège jusqu'à 6 mois, courais, courais, on m'attraperait pas. Il y avait toujours un petit bâtard qui voulait me casser le bras. Courais, courais, on m'attraperait pas. Je suis conscient que la terre entière a une dette envers moi.
Et oui, mesdames, messieurs, quelle édition nous mentez aujourd'hui, professeur Bouraoui, vous avez aimé?
Oui,
on
beaucoup,
a voyagé.
Beaucoup,
hein.
Oui, merci beaucoup.
On a voyagé dans la planète.
Ah, tout à fait, dans la planète entière, oui.
Et Boustad Berichi.
Oui.
Intéressant.
Oui,
on aimerait bien l'avoir.
Absolument.
Remerciements au capitaine Duvera, remerciements à Marc-André, à Tania, l'Express de Toronto, RFI Musique et Serge Meyer, professeur et traducteur de toutes les œuvres, du professeur Bouraoui, Nicolas D'Ambrosio, qui est à Bari, l'Université de Bari, en Italie. Merci beaucoup d'avoir été là.